Alléluia. Donc, difficile à dire, mais nous allons terminer notre série sur « Je cherche à grandir ». Mais j'espère que ça ne va pas vous dire que vous allez arrêter de grandir. On a commencé cette série au début de l'été. Je pensais que j'allais faire quelques enseignements là-dessus et ça grandit et grandit et grandit. Mais c'est très bien parce qu'on cherche à grandir. Rappelez-vous, je vous dis, c'est un des thèmes de cette année, cherchez. Si vous ne cherchez rien, oui, vous ne serez pas déçus. Mais quel paître d'une vie. Amen. Je pense chaque jour, chaque semaine, chaque mois, nous devons avoir un objectif. Oui. Quelqu'un m'a dit avant-hier, il ne faut pas mourir le matin parce qu'il se peut que vous allez apprendre quelque chose pendant la journée. Et je dis, ça c'est une bonne attitude, n'est-ce pas? Ne mourrez pas le matin, quand vous décidez c'est l'heure de partir. Oui, attends le soir après que vous avez appris encore quelque chose d'autre. Alléluia, c'est super. Attends encore le lendemain. Et j'espère pour chacun de vous, vous allez attendre très longtemps avant que vous décidez de partir parce que nous avons des choses à faire. Surtout, il y a des gens à gagner pour Jésus. Le verset que j'ai pour terminer, c'est un verset qu'on a regardé par le passé, 2 Thessaloniciens 1, 3. On va le lire après, on va faire notre bonne déclaration ensemble. 2 Thessaloniciens 1, 3. Donc, c'est le deuxième épître aux Thessaloniciens, donc juste avant Timothée. Et Paul est un homme de foi. Il faut lire tous ses épîtres et voir comment il parle des églises. Même les églises qui avaient plus de problèmes, oui, il les traite avec respect et il croit. Et écoute ce qu'il dit ici. 2 Thessaloniciens 1, 3, et vous pouvez mettre marque-page parce qu'on va revenir ici. Il dit, nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste. Voilà comme nous devons penser à nos frères et sœurs. Nous devons continuer à rendre grâce à Dieu pour eux. Parce que votre foi fait de grands progrès et la charité, permettez-moi de changer ce mot, l'amour, certains de vous, vous avez déjà ça dans votre version, l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Amen. Je suis désolé de vous dire, parce que peut-être certains de vous, vous pensez encore cela, mais la réussite dans la vie, ce n'est pas combien d'euros je peux gagner, ou la taille de ma maison, ou ma voiture. La réussite, c'est de marcher dans l'amour, dans la joie et dans la paix. Et écoutez-moi bien, Dieu n'a rien contre des choses. Mais la Bible dit très clairement, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses. Et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne cherchez pas les choses, mais nous cherchons à grandir, à donner place à l'amour de Dieu qui est dans notre cœur. Nous cherchons que notre esprit qui est né de nouveau ne reste pas dans l'état de bébé, mais qui grandisse dans le Seigneur. Levez votre Bible, secouez un petit peu. Là, vous faites plaisir au Seigneur et pas au diable. La Bible dans la main d'un chrétien, c'est un premier pas. La Bible dans le cœur d'un chrétien, c'est un deuxième pas. Et la Bible en action dans notre vie, ça c'est la victoire. Alléluia. Dis ceci avec moi, voici ma Bible. Je suis ce que la parole de Dieu déclare à mon sujet. Je possède tout ce qu'elle affirme. Et je suis capable de faire tout ce qu'elle me promet. J'aligne mes pensées, mes paroles et mes actions sur la parole de Dieu. Ainsi, je remporterai la victoire à la gloire de Dieu dans tous les domaines de la vie. Ce que je dis s'accomplit dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. On va revenir à ce verset, mais je voulais rapidement, faire un petit résumé de ce que nous avons vu et terminer avec quelque chose. Donc, vous voulez quelques pensées très, très pratiques, d'accord? Nous avons commencé en 1 Pierre 2, de 1 et 2. 1 Pierre 2, 1 et 2, c'est sur les écrans. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Sans la nourriture physique, vous n'allez pas grandir et vous n'allez pas pouvoir survivre. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne mangent pas? Vous laissez une journée passer sans manger? Certaines personnes ont des problèmes là. Ils disent, j'ai perdu mon appétit. Qu'est-ce qu'on dit en France? C'est en mangeant, ouais, que l'appétit vient, n'est-ce pas? Amen. Moi, je vous dis quelque chose. Vous voulez un bon régime qui marche? Oui? Oui? Ne mangez pas avant que vous ayez lu la Bible. Vous allez vraiment faire un bon régime. Parce que souvent, nous croyons que nous avons faim parce que notre esprit est affamé. Nourrissez d'abord votre esprit avec la parole. Après, nourrissez bien et correctement votre corps. Soyez équilibré quand même. Je ne suis pas en train de dire « deviens anorexique ou boulimique ». Oui, parce que les gens traitent leur corps mal et après demandent pourquoi ça ne fonctionne pas. Oui, mais vous ne penserez pas à ne pas remplir le plein d'essence de votre voiture si vous allez partir en voyage, n'est-ce pas, en route. Chaque semaine, la plupart de nous avons besoin de faire le plein. Amen. Pour une voiture, vous pouvez faire ça une fois par semaine peut-être. Mais pour votre homme spirituel, hein, vous avez besoin de le faire tous les jours. Nous avons vu en 1 Corinthiens 13, 11, ce chapitre de l'amour, comme nous l'appelons, que Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Nous avons parlé du fait qu'il faut que nous désirons le lait spirituel pur de la parole et que nous devons faire disparaître ce qui est de l'enfance. Nous ne pouvons plus être le bébé et devenir l'adulte. Amen. Et je pense que nous avons tous ce désir, n'est-ce pas? C'est de toucher les gens autour de nous, de voir notre église se remplir encore et encore et des gens venir de partout reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça ne peut pas se faire si nous restons bébé ou enfant. Amen. Il faut qu'on devienne adulte pour accueillir d'autres bébés. Hallelujah. Gloire à Dieu. Galates 5, 22 dit le fruit de l'esprit. Si on veut savoir qu'est-ce que c'est, l'adulte, le fruit de l'esprit, ce que nous devons viser, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà ce qu'on veut voir pousser chez nous. Amen. Ah, mais moi, je choisis la patience. Non, il y a peu de gens qui choisissent la personne. On préfère choisir la joie, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas des fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Et on a besoin de faire pousser tout cela. Toutes ces facettes de l'amour, si on veut. Amen. Dans le psaume 1, verset 3, il parle de cet homme spirituel. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est l'homme spirituel. Tout ce qu'il fait lui aussi. Ça veut dire, il est bon à tout, absolument pas. Mais il passe pas de son temps en train de faire les choses auxquelles il n'est pas appelé. Et il croit dans les autres aussi, cet homme spirituel. Il sait qu'il a besoin des autres pour réussir sa vie. Amen. Et qu'on laisse les autres, quand les autres ont des capacités que nous n'avons pas, on s'associe avec eux, on travaille avec eux, on œuvre avec eux, et on se développe ce que Dieu nous a donné. Amen. Il y a quelque chose d'être conduit par l'Esprit de Dieu, que nous laissons les choses qui nous perdent tellement de notre temps, qui nous fatiguent constamment. Rappelez quelque chose, nous avons commencé à prier au début de cette année, parce que l'année dernière, on a prié beaucoup. Merci Seigneur pour du travail pour chacun dans cette église. Et le Seigneur m'a donné une parole, pas seulement qu'on veut du travail pour chacun, mais on veut pour chacun un travail qui les plaise. Oh, hallelujah. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire, moi j'ai un travail qui me plaît? Oh, hallelujah. Moi, je crois pour chacun de vous. Amen. Mettez votre foi en action parce que c'est votre travail, ce n'est pas le mien. Oui? Je ne sais pas s'il y a un homme plus heureux que moi. Oui? J'aime faire ce que je fais. Je ne peux pas m'imaginer faire autre chose que ce que je fais. Je suis ravi. Je me lève tellement tôt le matin parce que j'ai envie, oui, de faire ce que Dieu m'a appelé faire et je crois ça pour chacun de vous. Est-ce que vous pouvez vous joindre votre foi avec la mienne? Pour vous. Amen. Et pour chaque personne qui franchit cette porte. amen, qui vont apprendre les bénédictions de Dieu, apprendre, parler, changer son attitude, se mettre en position pour recevoir ce travail et vraiment vivre bien ce travail. Et je sais, nous avons tous des circonstances et des situations qui nous arrivent dans notre travail, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous confronter tous les jours aux problèmes du travail. Nous pouvons aller devant le trône de Dieu et dire, Seigneur, merci pour la solution. Je vais aller au travail aujourd'hui avec la solution et je prie pour mes collègues et je prie pour mon chef et je prie pour les gens qui sont en-dessous de moi et je les bénis et j'appelle les solutions. Oh, ça change tout, n'est-ce pas? Tu veux dire, Dieu veut venir au travail avec moi? Vous partez pas de la maison sans Dieu, s'il vous plaît. Mais quelle erreur! Je ne comprends pas ça. Comment les gens peuvent concevoir vivre une partie de leur vie sans Dieu? Ou vous pensez qu'il vient avec vous dimanche matin? Non, non, il veut venir tous les jours. Et peut-être ça va dire qu'il y a certains endroits où vous ne pouvez plus aller. Parce qu'il dit, mais Dieu ne veut pas être là, donc vous n'allez plus. Simple, n'est-ce pas? On a regardé Jacques 3:2. Si quelqu'un ne se branche point en parole, c'est un homme parfait. Wow! Capable de tenir tout son corps en bride. On va y arriver. Ouais. Mais ne laissons plus notre corps diriger notre vie. 1 Thessaloniciens 5, 23, on a resté longtemps avec ce verset. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, tout le monde dit tout mon être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout mon être, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Je ne sais pas si vous avez adopté cette déclaration, mais moi je vous dis, il faut l'adopter. Moi je ne dis pas ça constamment pour que vous dites, oh oui, c'est dimanche encore, John. Non, parce que ça va changer votre vie. Dites avec moi, je suis un être spirituel. Je vis dans un corps. Et je possède une âme. Je ne suis pas un corps. Et je ne suis pas un intellect. Je suis un être spirituel créé à l'image de Dieu et il faut que je laisse mon esprit diriger ma vie. Gloire à Dieu pour l'ordinateur que Dieu m'a donné. Gloire à Dieu pour les émotions qu'il m'a données. J'aime ma femme. Je vous aime. C'est génial, mais les gens qui sont traînés partout par les émotions, chaque jour ils se lèvent et disent, qu'est-ce que je sens? Oui, je ne comprends pas ça. Moi, je ne me suis jamais posé cette question depuis des années et des années. Je ne demande pas quelles sont mes émotions. Moi, je déclare, je suis béni. Je déclare que je me réjouis dans le Seigneur. Je mets mon vêtement de louange. Je ne sais pas, vous avez choisi vos vêtements ce matin ou quelqu'un a choisi pour vous? Non, parce qu'au niveau d'attitude, on laisse les autres choisir pour nous. Oui? Mais la première personne qui vous crie dessus ou qui vous coupe dans la circulation ou qui dit quelque chose d'impoli, oui, et vous perdez votre bonne attitude parce que vous ne l'avez pas décidé, mais moi et Laura, nous mettons tous les jours notre vêtement de louange. On s'habille spirituellement avant de nous habiller naturellement. Et j'essaie de faire le mieux possible. Quelquefois, Laura m'a dit que ça ne va pas ensemble, mais ce n'est pas grave. Oui. Mais spirituellement, je m'habille, amen, je décide parce que je suis un être spirituel et mon esprit va vivre pour l'éternité. Et je veux renouveler mon intelligence tous les jours parce qu'il part avec mon esprit. Mais ce corps, et aussi longtemps que je vis, je déclare que mon corps vit en bonne santé. Amen. Je ne donne pas place à la maladie. Amen. Mais je laisse ce corps ici et je vais m'habiller, oui, avec un corps nouveau. Hallelujah. Certains se réjouissent de ça, n'est-ce pas? Moi, je dis, merci Seigneur. Hallelujah. Je vous ai encouragé à faire une déclaration pendant 30 jours. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Nous avons pris 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8. Est-ce que les gens ont fait? Oh là 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 là. Moi, je vous donne des choses. Ça va vous aider. Vous pouvez le reprendre, d'accord? On va le déclarer ensemble, d'accord? C'est une déclaration dans la première personne. De ce qu'est l'amour, parce que la Bible dit en Romains 5, 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'ai l'amour de Dieu en moi, et vous? Donc voilà, dis ça avec moi, je suis patient, je suis plein de bonté, je ne suis point envieux, je ne me vante point, je ne m'en point d'orgueil. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche point mon intérêt. Je ne mérite point. Je ne soupçonne point le mal. Je ne me réjouis point de l'injustice. mais je me réjouis de la vérité. J'excuse tout. Je crois toujours le meilleur. Je supporte tout. Je ne péris jamais. Amen. Mes amis, ça c'est une déclaration à faire tous les jours. Parce que vous allez donner place à l'amour de Dieu qui est dans votre cœur. Moi je dis l'amour dans notre cœur, c'est comme la voiture dans votre garage. Oui, sauf que c'est une voiture de collection qui va gagner de valeur en le gardant hors des routes. Normalement, on a une voiture pour nous amener de A à B, n'est-ce pas? D'un endroit à un autre. Et on a le garage pour protéger la voiture, mais on ne garde pas la voiture dans le garage. Oui. Certains pensent qu'il faut qu'ils protègent leur amour. Donc je ne les sors pas sortir mon amour, parce que si je manifeste mon amour envers quelqu'un, ils vont me marcher dessus. L'amour qui est dans votre cœur va grandir. Oui, en l'offrant aux autres. Amen. Nous avons un exemple magnifique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais on lui a marché dessus, Jean. Quel exemple! Non. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Jésus était sur terre, il y avait quelques personnes. 12 disciples. Oui. Après, de temps en temps, il y avait quelques milliers de personnes. Mais aujourd'hui, à travers le monde, il y a des millions de chrétiens, des fils et des filles de Dieu. Vous pensez pas que Dieu n'a pas bien investi son fils? Amen. Il a donné son amour. Vous donnez votre amour, vous allez voir cet amour grandir. Et vous devez arriver à un moment où vous dites, je suis tellement plus grand à l'intérieur que ce que je suis à l'extérieur. Ça, c'est grandir et devenir l'homme ou la femme spirituelle. Donc Dieu a toujours désiré que vous soyez. Je vous en ai 5 pas pour développer l'être spirituel. De Josué 1:8 et de Romains 8, 14 et 16. Josué 1:8, vous pouvez citer avec moi, c'est là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Moi, je dis, si Dieu nous donne une recette pour réussir, avoir du succès, ça veut dire qu'il désire notre succès et notre réussite. Ne pensez pas à autre chose, d'accord? Romains 8, 4, 14 et 16 dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit rend témoignage à notre esprit. Je vous donnais ces 5 pas, ces 5 choses à faire. Il faut parler la parole. Dis avec moi, parler la parole. Méditer la parole, mettre en pratique la parole, laisser primer la parole et obéir à la voix de votre esprit. Mais je peux me tromper. Il y a certaines qui ont tellement peur de se tromper qu'ils ne font rien. Vous pouvez être sûr que votre esprit, si vous êtes né de nouveau, oui, va pas vous donner des mauvaises indications. Vous pouvez suivre votre tête et votre raisonnement et vous tromper à 50%. Oui. Vous pouvez appeler un ami et il peut se tromper. Amen. Mais si vous regardez dans le fort intérieur et dites, mais qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Vous n'allez pas vous tromper. Mais il faut vous éduquer à faire cela. Parce que nous avons été éduqués à écouter, d'abord regarder les circonstances, après réfléchir, après écouter ce que les autres disent. Non. D'abord, je vois qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que mon cœur dit. L'esprit et la parole vont toujours s'accorder. Hallelujah. Quelques autres versets que nous avons vus. Oui, le psaume 19:15, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Nous avons vu dernièrement que Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Amen. Nous avons vu en Jacques, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accomplir sans faillir en rien. Amen. Hallelujah. Je peux voir d'autres choses, mais j'ai envie de vous partager exactement comme j'ai partagé avec beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus me dire, mais pasteur, je veux grandir dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir dans le Seigneur? Vous voulez savoir ce que je dis? Je ne sais pas combien de fois je le fais ça. Oui. Mais je dis, d'abord, vous voulez vraiment grandir dans le Seigneur? Il dit, il faut aimer ce livre. Il faut aimer la Bible. Nous ne pouvons pas dire qu'on aime Dieu si nous n'aimons pas son livre. Oui. C'est le manuel d'utilisation pour l'homme qu'il a créé. Amen. Et je ne sais pas, mais normalement sur les chaises, nous mettons des marque-pages. Oui. Ça, c'est un ami pour vous, d'accord? Vous devrez avoir beaucoup de marque-pages. Qui lit ici? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent? Oui. Si vous ne lisez pas, c'est l'heure de vous réveiller. On n'a pas passé tout ce temps à l'école pour apprendre à lire, pour abandonner quand nous quittons l'école. Oui. On n'a aucune excuse. Nous avons l'occasion, opportunité aujourd'hui de nous former et d'apprendre les choses qui peut-être semblaient inutiles à l'époque, mais aujourd'hui, oui, et pour, vous pouvez aller sur Internet apprendre toutes sortes de choses. Amen. Mais ce livre, c'est le livre qui change notre vie. Donc, ce que moi, je conseille les gens, et c'est difficile pour les gens de comprendre ceci, parce que nous, normalement, nous lisons un livre du premier page au dernier page. Amen. Et je pense, je vous conseille tous, à l'époque dans votre vie, de lire toute la Bible. Vous n'avez pas seulement besoin de lire 4 chapitres par jour et vous pouvez lire toute la Bible dans une année. D'accord? Mais si vous êtes en train de commencer, je sais beaucoup d'entre vous ne sont pas en train de commencer, il faut commencer dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament commence où? Dans l'Évangile de Matthieu. Amen. Et moi, je vous conseille tous les jours de lire au moins un chapitre dans les Évangiles. Et vous mettez votre marque-page, vous ne demandez pas qu'est-ce que je vais lire aujourd'hui. Dans le mouvement charismatique, on faisait comme ça. On lisait le verset et on dit, ça c'est ce que Dieu veut dire pour moi. Et on lisait n'importe quoi. Hein? Mais on essaie de deviner ce que Dieu voulait dire. Non, on met notre marque-page et on reprend le lendemain et nous avançons comme ça. C'est exactement comme vous. Oui, qui mange quelque chose de différent tous les jours du matin? Tous les petits déjeuners, vous mangez autre chose. OK, qui mange la même chose tous les jours? Oui, on prend quelque chose, j'espère, qui nous va bien, n'est-ce pas? Je ne sais pas quelle est votre habitude. Si ça ne vous fait pas du bien, changez. Ouais. Allô? Si ce que vous êtes en train de manger vous fait grossir, changez. Allô? Ça ne va pas vous faire grossir. Ça va vous faire grandir spirituellement. Ouais. Et tous les matins, ouais, ou les midis, ou le soir, ce qui vous convient, chacun a un emploi de temps différent. Si vous n'êtes pas réveillé le matin, peut-être vous voulez faire comme moi j'ai fait ce matin. J'ai pris mon smartphone et je suis allé sur un site et je me suis fait écouter la parole de Dieu pendant que je me suis en train de raser, en train de me préparer, et j'écoutais, je ne sais pas combien, 5 chapitres de la parole. On m'a lu ça, gratuitement. Amen. Mais la Bible dit qu'il faut que nous laissons cette Bible passer par nos yeux. Il y a quelque chose qui se passe quand tu le vois avec vos propres yeux. Et moi, je lis dans les psaumes, dans les proverbes, tous les jours. Pourquoi? Parce que je lis le premier proverbe, il dit que ça donne la sagesse aux jeunes. Quand j'ai commencé, j'étais jeune. Je suis beaucoup moins jeune maintenant. On m'a dit ce matin que mes cheveux allaient friser avec la pluie. Certains ont plus de foi que moi. Mais je continue à lire. Tous les jours, je lis un chapitre des Proverbes. Souvent, je reste sur un petit verset et je médite ça, je travaille cela, mais je lis les psaumes parce qu'on voit les différentes choses qui peuvent arriver, circonstances qui peuvent arriver. Et le psalmiste revient toujours de sa confiance dans le Seigneur, de sa louange de Dieu. Amen. Et je lis les épîtres. Je mets mon marque-page et je reprends. Et quelquefois, j'ai envie de lire autre chose. Et vous savez ce que je fais? Je lis autre chose. Amen. Mais je ne laisse pas passer un jour sans lire ma Bible. Pourquoi? Parce qu'elle me fait connaître la volonté de Dieu. Amen. Et il faut que je connaisse la volonté de Dieu parce que la prière selon la volonté de Dieu, c'est la prière qui est exaucée. La prière selon la volonté de Dieu, c'est la prière de la foi. Quand j'ignore la volonté de Dieu, ma prière n'est jamais une prière de foi. C'est une prière d'espérance. Ou une prière de pompier. Vous avez prié les prières de pompier? Le diable va mettre les feux partout et vous allez courir pour éteindre ces feux. Ça, ce n'est pas la façon de vivre. Donc, je veux vous conseiller, si vous n'avez pas commencé à faire, nous avons besoin de laisser tomber des mauvaises habitudes. Ça, c'est sûr. Mais la meilleure façon de laisser tomber une mauvaise habitude, c'est d'établir une bonne habitude. Et lire votre Bible va changer votre vie plus que toute autre chose parce que ça va vous donner une fondation solide dans votre vie. OK? Est-ce que vous m'écoutez là? L'autre chose que je dis, oh non, j'ai dit deux choses quand je lis ma Bible. Ça va vous aider. Je cherche deux choses quand je lis ma Bible. Et ça toujours, pour moi, ça m'a donné envie de lire. Je cherche toujours la promesse de Dieu. Quand je lis, je dis, qu'est-ce que c'est la promesse de Dieu? Qu'est-ce que je trouve? Je vais trouver un bijou, hein? Une perle, hein? Hein? Quelque chose de grand prix, je vais trouver. Et je cherche cette promesse dans la parole. Je dis, chaque jour, je veux trouver une promesse. Ouais, et peut-être je vais trouver dans le premier verset que je lis, je vais continuer à lire tout le chapitre, mais après je vais revenir et je vais commencer, merci Seigneur pour ça, et je me pose deux questions. Quelle est la promesse de Dieu pour aujourd'hui? Et après, que dois-je faire? Parce qu'il y a le côté de Dieu qu'on appelle la grâce. Ce que Dieu nous promet, ce que Dieu a fait pour nous, c'est un cadeau. Mais à côté de l'homme, qu'on appelle la foi, parce que la foi sans les actions correspondantes est morte, c'est ma réaction. Que dois-je faire pour recevoir? Pas pour payer, on ne peut pas acheter les grâces de Dieu, mais pour se mettre en position pour que cette grâce devienne réalité dans ma vie. C'est magnifique de savoir que par ses meurtres sûres, nous avons été guéris. Quelle promesse merveilleuse! Mais moi, je ne veux pas savoir cela, je veux la vivre. Vous comprenez la différence? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont une tête bourrée des choses, mais on ne les voit pas dans leur vie. Moi, je ne veux pas être un chrétien constipé. J'ai tellement mangé, mais je ne fais jamais d'exercice. C'est la mise en pratique de la parole qui produit. Donc toujours, qu'est-ce que Dieu a promis? Que dois-je faire? Et ça a toujours mis la lumière. Quand je lis ma Bible, quand les gens disent, « Oh, moi, j'aime pas. » Moi, d'abord, je ne crois pas que vous lisez. Ouais. Ce n'est pas ce que vous lisez. Ouais. « Ah, je suis perdu dans Ézéchiel. » Oui, mais vous allez vous perdre peut-être dans les prophètes. C'est pourquoi je vous conseille, ne commencez pas dans l'Ancien Testament. Commencez dans le Nouveau. Et quand vous avez envie, quand vous voyez les références de l'Ancien, vas-y, retourne là et commence à lire ça. Et vous allez dire à un moment, je ne peux plus lire le Nouveau Testament. Il faut que je lis l'Ancien Testament. Il faut que j'apprends notre héritage. Et là, vous allez vivre et dévorer l'Ancien Testament et pas dire... Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il parle de qui, de quoi, je ne comprends rien. Commencez dans le Nouveau Testament. D'accord? Première chose. Deuxième chose, vous voulez vraiment grandir dans le Seigneur? Il faut donner place à ton cœur. Et j'ai appris ceci. Oui. Jésus est venu vivre dans notre cœur par le Saint-Esprit. On appelle ça la nouvelle naissance. Amen? On ouvre notre cœur et on dit, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et il vient vivre en nous. Oui. Première expérience avec Dieu qui est tout ce qui est nécessaire pour arriver au ciel et pour vivre avec Dieu. Mais il n'y a pas qu'une expérience dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup d'expériences. Mais la deuxième expérience que nous avons besoin de vivre, c'est la Pentecôte. Et quand Jésus était ressuscité d'entre les morts, il a rencontré ses disciples, même avant de partir, il a dit en Luc, « Ne partez pas avant que vous avez reçu la puissance d'en haut. » Acte 1, verset 8, Jésus dit, parce qu'ils ont demandé, est-ce que vous allez établir maintenant ton royaume? Ils pensaient toujours dans le naturel, est-ce que tu établis un royaume naturel? Jésus n'est pas venu pour établir un royaume naturel, il est venu pour établir un royaume spirituel. Un royaume naturel aurait pu disparaître, mais un royaume spirituel, c'est pour l'éternité. Et il dit, oui, je ne peux pas vous dire à quelle heure ça va se faire, Jésus dit, mais, acte 1, 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Amen. Et le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Il y avait 120 personnes en train de trembler dans la chambre haute. Ouais. Ils tremblaient, ils avaient vu Jésus ressuscité, mais ils tremblaient encore et les portes étaient fermées. Et la Bible dit qu'ils étaient tous assis. Et un vent impétueux est venu. Des langues de feu sont venues et ils sont posées sur chacun d'eux. Je suis tellement triste que les gens pensent qu'il y a certaines bénédictions pour certaines personnes et d'autres bénédictions pour d'autres, quand la Bible dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Et ils ont tous parlé en d'autres langues. Leur cœur qui était un cœur fermé, un cœur de pierre avant qu'ils avaient reçu Jésus, est devenu un cœur de chair et ils ont commencé à battre avec Dieu. Mais ça ne suffit pas. Jésus appelle ça un puits d'eau et c'est pour vous, mais ce n'est pas pour les autres. Mais il a envoyé le Saint-Esprit pour remplir leur cœur. Oui, il a dit, vous aurez des fleuves d'eau coulant de votre sein. Jean 7, 37. Et de ce moment, ils sont parlés en langue et ils sont allés dans la rue et ils ont commencé à évangéliser. Et le monde a été bouleversé. 3000 personnes ont été sauvées ce premier jour. Et ça n'a jamais arrêté depuis. Amen. Et mon conseil, si vraiment vous voulez grandir en Dieu, c'est que vous recevez le baptême du Saint-Esprit, si vous n'avez pas encore. Beaucoup de vous l'avez reçu depuis longtemps. Et que tous les jours, vous parlez en langue. Nous avons toujours besoin de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais la première chose à faire pour mettre la parole de Dieu en pratique, c'est de parler. Parler la parole. Mais parler en langue va donner plus de place à ton cœur qu'à ton intellect. Parce que nous avons trop notre langue branchée avec notre tête. C'est pourquoi vous dites tellement des bêtises. Non, laisse-moi redire ça. C'est pourquoi nous disons tellement des bêtises. Ce n'est pas que vous. Parce que nous laissons notre langue branchée, rester branchée avec notre tête. Il faut qu'on branche, nous branchons notre langue avec notre cœur tous les jours en parlant en d'autres langues. Et vous allez apprendre, dominer, assujettir, ouais, brider votre langue en parlant en langue. Et votre cœur va prendre la direction de votre vie. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un homme qui lit sa Bible tous les jours et qui prie dans l'esprit tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'aller vous enfermer, vous cloîtrer pour faire ça. Vous pouvez faire ça sous la douche. Vous pouvez dire tous les jours quand je m'habille, quand je fais mes cheveux, les femmes, vous faites votre maquillage, nous les hommes, on se rase. Oui, oui. À ce moment, je vais prier en langue. Vous dites quand je me mets à marcher au travail ou je me mets dans la voiture, je mets le contact et je commence à prier en langue. Et je vais prier en langue 15, 20, 30 minutes en langue. Moi, je dis, ça transformera votre vie. Je cherche à grandir. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde qui va vers la perdition. Parce que je veux la puissance de Dieu dans ma vie quand je prie. Vous voulez ça? Vous voulez que les malades soient guéris quand vous imposez vos mains? Soit dans la parole tous les jours, priez dans l'esprit tous les jours. Libérez la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Si vous n'êtes pas en train de grandir, je suis désolé, mais je vais vous responsabiliser maintenant. Oui, c'est votre faute. Pourquoi? Parce que rien que je viens de vous dire est payant. Rien que je viens de vous dire est culturel. Rien que je vous dis est difficile. La seule chose, ça va exiger de votre temps. Et combien je suis triste quand les gens disent qu'ils n'ont pas le temps. Vous avez le temps pour faire des bêtises, pour répéter les mêmes erreurs, pour perdre de l'argent, vous avez le temps? Ou vous avez le temps pour prendre la bonne route la première fois? Être là quand le sol commence et vous trouvez vos paires de chaussures qui étaient à 200 euros à 50. Nous avons fait ça. On a fait cette expérience que nous sommes allés acheter pour acheter quelque chose et le Seigneur nous a arrêtés et on ne pouvait pas pour trouver quelques jours ou quelques semaines plus tard en sol au moitié prix, un tiers du prix. Ah, moi, j'ai les meilleures choses à faire avec mon argent. L'argent ne nous manque pas. Je n'ai pas un problème d'argent. Mais comment je vais utiliser cet argent, c'est tout à fait différemment, n'est-ce pas? Parce que les gens qui dépensent tout leur argent sur eux-mêmes, moi, je suis triste pour vous. Dieu nous donne l'argent pour bénir les autres. Et donc, quand nous pouvons acheter des choses soldées ou que les gens nous offrent les choses, ça nous arrive tellement des fois. On a un arrêt dans notre esprit de ne pas aller acheter quelque chose. Et qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un arrive avec la chose. On n'avait jamais parlé avec eux. Je n'oserais pas. Moi, je veux que Dieu agisse dans ma vie. Je veux que ma foi se produise. Donc, quand Laure et moi, nous sommes dans le besoin, vous pouvez être sûr qu'on ne parle avec personne. On a peine de parler l'un avec l'autre quand on a un besoin. Mais sérieux, on fixe nos yeux pas sur nos besoins matériels. Il y a un monde qui est en perdition. Il y a des gens qui vont arriver en enfer si nous n'annonçons pas l'Évangile. Amen. Moi, je suis en train de parler des choses sérieuses ici. Dieu a besoin que chacun de nous, nous devenons adultes pour qu'on puisse voir des milliers de bébés naître en Christ et élever ses enfants. Et je dis un dernier mot et après on va terminer. L'adolescence spirituelle, c'est aussi difficile que l'adolescence naturelle. Oui, vous vous rappelez comment c'était en temps, quand vous êtes arrivé à l'adolescence? Oh, vous êtes devenu tellement brillant, intelligent. Vous savez toutes les réponses pour l'humanité, n'est-ce pas, en quelques jours. Et remarquablement, au même temps, vos parents sont devenus des idiots. En quelques jours, oui, ils ne comprenaient plus rien, ils n'avaient rien vécu, ils ne comprenaient pas, n'est-ce pas? Et je me lèverai. Et heureusement, on ne reste pas trop longtemps dans l'adolescence, n'est-ce pas? Moi, je dis qu'il y a une solution géniale pour l'adolescence. Oui, tu laisses les gens quitter la maison, payer leur propre facture, et tout d'un coup, ils réalisent pourquoi on éteint les lumières, on ferme les robinets, on éteint le chauffage si la vitre est ouverte, n'est-ce pas? Oui, toutes ces choses géniales qu'on a eu besoin de leur dire, n'est-ce pas? Pourquoi on lave les assiettes, tout de suite on les rince et on ne les laisse pas pendant 3 semaines jusqu'à toute une multitude d'amis qui sont arrivés? L'adolescence spirituelle aussi, c'est un peu difficile parce qu'on croit savoir mieux que le pasteur. On croit savoir mieux que tous nos aînés. Tout d'un coup, nous avons la science infuse spirituelle. Mais moi, je dis, c'est génial l'adolescence parce qu'il faut passer par là pour devenir ce adulte qui peut produire, qui est productif, qui a une bénédiction pour la société. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'adultes spirituels. Moi, j'appelle notre église, chacun dans notre église, d'arriver dans cet état d'adulte où les gens peuvent dire, on peut compter sur eux. Quand ils disent leurs paroles, quand ils donnent leurs paroles, on sait que c'est fait. Ils ont dit, ils vont le faire. Et qu'est-ce qu'on voit? Dieu va nous envoyer, pas quelques-uns, mais des centaines et des milliers, ouais, des gens, parce qu'ils ont besoin des adultes qui vont leur montrer le chemin. Ils disent, oh, c'est comme ça être chrétien? Je veux être chrétien. Où est-ce que je signe? C'est comme ça réussir? C'est comme ça vivre dans l'amour, vivre dans la joie, vivre dans la paix? Exactement. Hallelujah, c'est l'heure. Je cherche à grandir. Et vous? On va finir avec ce verset donc qu'on a commencé. 2 Thessaloniciens. Vous avez mis votre marque-page, peut-être pas. Hallelujah. Des versets comme ça vaut la peine de méditer. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, on va prier. Hallelujah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Così prendi che a soppo me nieni guasei, o ha chi ha do soma in diedi se qua, o mas ti breghi soma nieci se. Oh, merci Seigneur. Oh, je bénis le Seigneur pour mes 2 sœurs, parce qu'elles sont allées à l'école et elles ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est elles qui m'ont entraîné. Oui, dans un groupe de jeunes chrétiens, et c'est là où j'ai rencontré le Seigneur. Et après, ils sont venus rentrer de l'école. À l'école, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils sont rentrés à l'école, ils ont imposé les mains sur moi, et ils ont dit, parle en langue. Ils m'ont rien expliqué, parce que personne ne les a rien expliqué non plus. À l'époque, on ne savait pas, oui, pourquoi on faisait, et je me suis mis à parler en langue. Après, je me suis entouré d'un groupe biblique où les gens mettaient en question tous les miracles de Dieu, toutes les choses de Dieu. Et pendant presque 3 ans, je n'ai pas parlé en langue. Et ma vie spirituelle qui était en train de monter en flèche, a fait, on dit plateau? Oui, comme ça. J'ai pas avancé un cran pendant ces 3 ans. Et heureusement que Dieu est bon. Oui, j'ai partagé une chambre avec un pentecôtiste. Hallelujah. Oui. Et je ne savais pas, il est devenu un ami à la faculté. J'ai partagé avec lui et lui, il parlait en langue tous les jours. J'ai réalisé que j'avais laissé tomber quelque chose que Dieu m'avait donné, qui m'avait fait tellement de bien, et j'ai repris, et j'ai jamais lâché depuis. Donc je parle de 79, que je suis remis à parler en langue. Ça fait combien d'années? Quelqu'un bon en maths? Quelques-uns, hein? Bien, tu es aussi bon en maths que moi. Hein? Il y a 34 ans que j'ai réalisé que j'avais fait une bêtise en écoutant les autres, parce qu'ils mettaient en réalité en question tout le côté puissance, miracle, guérison de Dieu. Mais ne lis plus la Bible si vous voulez pas ça. Mais regarde le monde. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de guérison. Et je me suis remis à parler en langue. Et je parle en langue. Nous parlons en langue. Je ne fais pas d'excuses. J'ai jamais eu quelqu'un, oui, que, pour qui nous avons prié, les gens dans le monde qui avaient donc besoin pour guérison ou autre chose, se gêner parce qu'on s'est mis à prier pour eux et qu'on a prié en langue. Normalement, ils disent, waouh! J'ai senti quelque chose. Oui, ils ont senti quelque chose. Pourquoi? Parce que je suis branché. C'est mon turbo. Oui? C'est mon ligne directe avec Dieu. Et certains d'entre vous, vous avez lâché cela. Et vous pouvez dire, ah, il y a autrefois, j'ai prié en langue. Et pourquoi autrefois? Vous voyez où dans la Bible quand il dit d'arrêter de prier? Paul dit, je veux que vous parlez tous en langue. Il dit, un de ces secrets de Paul, c'est que je rende grâce à Dieu, que je parle en langue plus que vous tous. Et il a dit ça à l'église qui avait... Exagérer les dons spirituels. Merci Seigneur. Ok. Reviens. Alléluia. On fait une déclaration de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne vous connais pas tous, mais c'était la première et la plus importante décision de ma vie d'inviter, d'ouvrir mon cœur, d'inviter Jésus d'entrer. Et si vous ne l'avez pas fait, ou peut-être vous l'avez fait par le passé, mais vous vous êtes éloigné de Dieu. Savoir ceci, il faut sachez ceci, Dieu ne s'est pas éloigné de vous, même si vous êtes éloigné de lui. Il est là comme le père du fils prodigue avec les bras grands ouverts et il veut que vous reveniez. Et peut-être vous êtes là ce matin et dites, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Moi, je sais pourquoi vous êtes là, pour revenir à Dieu, parce que Dieu a des choses pour vous. Oui, les solutions pour vos problèmes, mais bien plus que cela, il veut vous donner un avenir et de l'espérance. On a une bonne déclaration, vous voulez voir ça là? Oui, et vous pouvez déclarer ceci avec nous et inviter Jésus. Ouvrez votre cœur à Dieu. Dites ceci avec moi. Je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Et je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Oh, mais...